Bienvenue à Fréquence Diversité, un balado de GoFM rendu possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Ici, on explore, on questionne et on démystifie les réalités des communautés LGBTQ+, dans l'Est ontarien et ailleurs. À travers des discussions authentiques, on donne la parole à celles et ceux qui façonnent la diversité d'aujourd'hui. Ici Louis-Philippe et dans cet épisode enregistré en direct de Fierté dans la capitale à Ottawa, je discute avec Arnaud Baudry, directeur général de l'organisme Franco-Queer.
Qu'est-ce que c'est Franco-Queer? C'est quoi la mission de Franco-Queer?
Alors, Franco-Queer, c'est la première et la seule, en fait, organisation francophone au service des personnes de SLGBTQIA+, francophones, en Ontario. Donc, on est là au service de la communauté arc-en-ciel en Ontario. On a deux grands volets de services. Un service qu'on appelle service direct, c'est les services pour les individus. Ça inclut les services d'établissement pour les nouveaux arrivants, LGBT, les demandeurs d'asile. Et puis on organise tout plein d'activités communautaires, de réseautage, de connexion, etc. Et puis on a un deuxième volet qu'on appelle service indirect. En fait, c'est tout ce qui est service de développement professionnel, formation, sensibilisation sur les enjeux et les besoins des personnes francophones LGBT en Ontario. Et donc on travaille principalement dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des services communautaires, et puis aussi auprès des médias.
Ça fait combien de temps que Franco-Queer existe, puis comment, peut-être un petit historique de la création de l'organisme?
Alors, on célèbre en fait cette année nos 20 ans.
Wow!
Franco-Queer a été créé en 2006 par un petit groupe, principalement d'hommes gays à Toronto, qui cherchaient, donc dans un environnement principalement anglophone, à appuyer l'offre d'activités pour les francophones gays et queer à l'époque. Et puis, dans l'historique de Franco-Queer aussi, ça a toujours été en lien avec les enjeux de VIH. Parce qu'il y a 20 ans, la situation était vraiment différente et il y avait besoin de plus de sensibilisation sur les enjeux de santé sexuelle. Et puis aussi un besoin de connexion encore entre les personnes gays qui vivent ou vivaient avec le VIH ou qui étaient à risque spécifiquement ou très exposés. Et il y a aussi un autre élément dans l'ADN de Franco-Queer, c'était l'aspect accompagnement des personnes nouvellement arrivées et des demandeurs, demandeuses d'asile sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Puisque au jour d'aujourd'hui, il y a encore, si je ne me trompe pas, 69 pays qui criminalisent l'homosexualité. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont à risque et non seulement qui sont criminalisées mais aussi à risque de mort pour dans certains pays, beaucoup de personnes qui se font aussi rejeter de leur propre famille. Donc il y a des personnes qui viennent chercher une nouvelle vie ici. Et puis dès la création de Franco-Queer, l'idée c'était d'accompagner aussi les personnes qui arrivent ici, leur donner un espace francophone pour pouvoir démarrer une nouvelle vie et puis s'affirmer dans leur identité.
Et maintenant, dans le fond, est-ce que vous êtes déployé dans tout l'Ontario? Comment vous déployez vos services là, au niveau, ben, pas physique, mais géographique, peut-être un petit peu plus? Évidemment, il y a l'Internet aussi, j'imagine.
Oui, on organise beaucoup d'activités en ligne. Mais alors, les activités en personne, c'est beaucoup à Toronto, mais là justement on est en train de travailler sur notre plan stratégique pour les années qui viennent. Et puis un des enjeux, c'est justement de développer l'offre d'activités en personne à différents endroits de la province, dont Ottawa, ou la région d'Ottawa on va dire, et puis Sudbury aussi. Oui. Notre équipe a beaucoup grandi pour développer nos services. On a une partie de l'équipe qui est basée à Toronto, on a une partie de l'équipe à Ottawa. Et puis, on a une personne là qui s'apprête à déménager à Sudbury.
Donc vraiment, vous êtes en déploiement là, dans tout l'Ontario en ce moment. C'est ce qui s'en vient dans ce plan stratégique-là. Oui, il y a donc de se déployer. Est-ce qu'il y a des nouveaux services aussi? Vous voulez aller dans des nouvelles avenues ou c'est surtout pour renforcer aussi ce que vous avez en ce moment?
Alors, c'est principalement pour renforcer, mais aussi développer... En fait, c'est pour développer les services qu'on offre déjà, mais à d'autres endroits de la province. Par exemple, les services d'établissement qui sont actuellement principalement à Toronto. Il y a des besoins ici dans la région d'Ottawa. une communauté francophone qui est active. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, des demandeurs d'asile. Donc, il y a beaucoup de besoins ici. On veut développer aussi le volet santé. Donc, la santé et accompagnement des prestataires de soins pour développer des pratiques plus inclusives pour les personnes de la communauté arc-en-ciel. Et en particulier pour répondre aux enjeux des personnes trans et non-binaires, parce qu'il y a encore beaucoup de professionnels de la santé ou des soins qui ne sont pas entièrement informés ou qui veulent bien faire, mais oui, qui sont méconnaissants un peu. Donc il y a besoin d'accompagnement pour répondre aux enjeux des personnes LGBT.
On sent quand même qu'il y a un certain recul aussi, là, notamment chez les jeunes. Là, c'est beaucoup des études, je pense, qui ont été faites au Québec, dans les écoles, mais où on a vu que bon, il y avait plus d'homophobie dans les écoles. On voit une espèce de... Bon, nous, on appelle ça un recul, évidemment, mais une espèce de changement dans l'appui aux communautés LGBT pour une organisation comme vous qui est généraliste quand même et tout ça. Est-ce que vous le voyez, vous l'observez, ce changement-là, vous?
Oui, on l'observe aussi. Et puis, le contexte sociopolitique est vraiment délétère. Le contexte, par exemple, aux États-Unis, avec tous ces messages de haine qui sont ouvertement diffusés, en fait, ça ouvre un peu... ça ouvre les vannes pour un déversement de haine anti-LGBT. Et souvent, c'est basé sur des croyances ou des mauvaises compréhensions ou des fausses informations, tout simplement. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail de sensibilisation à faire. On l'observe aussi dans les écoles, chez les jeunes. On a un programme jeunesse qui travaille spécifiquement auprès des jeunes et auprès des professionnels qui travaillent au service des jeunes. Et on l'observe aussi. Il y a vraiment des enjeux... Il y a vraiment des enjeux de sécurité pour les jeunes et d'affirmation identitaire dans leur identité. Il y a vraiment beaucoup de bullying encore. Et en fait, ça revient. C'est comme ce contexte donne un peu la permission, entre guillemets, aux personnes d'exprimer ces choses négatives de manière décomplexée, ouais. Donc c'est vraiment toxique. Et puis il y a tout ce mouvement aussi masculiniste qui répond à comme une sorte d'angoisse existentielle par la haine. Et je pense que les réponses qui sont données actuellement ne sont pas du tout à la hauteur de ce que ça devrait être. Et je pense pas non plus que les réponses en fait permettent de solutionner les enjeux.
Et est-ce que on doit se remettre, et là je me fais très avocat du diable, mais dans le sens que est-ce que, parce que là ça fait quand même je sais pas, plusieurs années qu'on porte ces messages-là, qu'il y a eu une espèce de recul aussi, puis là ça revient, est-ce que la lutte doit se remettre en question entre guillemets, ou tu sais, plus pas sur le message, mais sur les manières, est-ce qu'il y a des nouvelles manières qui doivent finalement, est-ce qu'il y a des nouvelles manières pour contrer ça qui doivent être mis de l'avant, parce qu'on dirait qu'il y a une espèce aussi de on est tanné d'entendre parler de ça, ou on est, donc est-ce qu'il y a des pratiques que vous voulez changer pour aller améliorer ça, ou pour aller les rejoindre aussi, ces gens-là?
Oui, je pense que les pratiques doivent s'adapter au changement dans la situation, puisque le contexte évolue. On doit évoluer avec ce contexte pour répondre d'une manière qui soit plus adaptée à ce qu'on observe et aux situations. Après, le message, il reste toujours le même, et il est quand même assez simple. C'est un message de respect. C'est aussi simple que ça. Et c'est quand même assez hallucinant que on est dans une situation où il y a des personnes qui vont utiliser certains arguments contre des communautés spécifiques. Donc c'est du, comment on dit,
détournement un peu de la parole,
de trouver des boucs émissaires.
Ouais, c'est ça. Ok, ouais. De pointer des problèmes qui sont pas, qui viennent pas de là, par exemple. Mais
exact.
Ouais.
Et puis on retrouve ça aussi sur les enjeux d'immigration. On retrouve ça sur, en fait, toutes les communautés qui sont minorisées et qui sont pointées du doigt comme responsables de problèmes qui sont absolument pas liés à ces communautés.
Le monde va mal, donc on cherche des coupables, puis évidemment, c'est les minorités qui sont victimes de ça.
Oui, le monde va mal et on cherche, et en fait, on ne donne pas des solutions qui permettent de répondre à la situation de ce monde qui va mal. Donc, les choses empirent. Donc, effectivement, après, il y a des leaders d'opinion, on va dire, qui surfent sur ça.
Il y a des politiciens aussi.
Ben, il y en a, oui. Et c'est grave.
Oui.
C'est grave parce que la réponse qui est donnée, elle n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Et puis les personnes qui vivent de l'anxiété existentielle ou qui vivent des problèmes économiques et ont du mal à boucler les fins de mois, ils vont se laisser influencer par certains messages parce que c'est la facilité. Trouver une réponse simple à un problème complexe, ça rassure d'une certaine manière, mais ça ne répond pas à l'enjeu complexe. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je pense aussi qu'il y a des ponts à faire entre les personnes qui s'opposent aux diversités de manière générale et au final, la fierté. Oui. Ce qu'on revendique, c'est le respect de toutes les diversités.
D'où l'importance d'un événement comme aujourd'hui, encore une fois, ou est-ce que c'est un autre façon de faire qui va être décriée parce que, fierté, bon, on le sait, tous les messages qui sont portés. Est-ce qu'on doit changer aussi un événement comme celui-là où on tient la route?
Moi, je pense que la fierté a toujours sa raison d'être et qu'elle l'aura toujours parce qu'elle porte un message de respect et d'amour. Et je pense que d'autant plus dans le contexte sociopolitique actuel, c'est absolument nécessaire. Mmh. Après, ça évolue. Je pense que l'offre... Ça va? L'offre... oui, ça évolue, la manière dont on va répondre à cette situation-là. Comme on disait avant, là, ça doit évoluer avec la situation. Mais clairement, c'est un événement qui est ancré dans la communauté, qui se veut bienveillant, respectueux, qui porte des messages positifs, de respect et d'amour. Je pense que toute la désinformation ou le manque de compréhension de ce qui est porté par ces messages, ça doit être clarifié en fait. Et pour ça, je pense qu'il faut il faut créer des opportunités d'échange. Je pense aussi qu'il y a il y a beaucoup de cloisonnement entre les communautés. Les réseaux sociaux contribuent à ça avec les chambres d'écho. Donc on est exposé aux messages qu'on soutient déjà. Donc on n'est pas vraiment remis en question dans nos croyances, dans les fausses informations qu'on peut avoir en tête. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de trouver des manières de créer des ponts, de créer des opportunités d'échange pour mieux se comprendre. Et en fait, réhumaniser, parce que souvent certaines personnes vont oublier qu'on parle d'humain, là.
Oui.
C'est pas,
dans les écrans, on oublie, hein, c'est ça.
Oui. Et ça crée de la distance. Et les messages qui sont véhiculés contribuent à déshumaniser nos communautés. Au final, on parle de personnes humaines qui ont des droits, qui méritent le respect comme tout le monde et qui veulent pouvoir vivre leur vie comme elles l'entendent et trouver les manières de pouvoir s'affirmer dans leur identité. Identité qui, dans notre société, voilà, est encore la cible de messages de haine, de stigmatisation,
de violence aussi physique,
de violence exacte, de violence physique, psychologique. Il faut que ça s'arrête. Au final, je pense qu'on cherche tous un peu la même chose, c'est de pouvoir vivre notre vie convenablement, tel qu'on l'entend, et pouvoir s'épanouir. Donc à chacun sa voix, quoi.
Fréquence Diversité, un balado de GoFM rendu possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire.